nationalisé ArcelorMittal. C'est vicieux comme proposition. C'est vicieux parce que ça joue sur le fait que, à partir du moment où c'est l'État français qui possède ArcelorMittal, ça protégerait les travailleurs d'ArcelorMittal. C'est ça le raisonnement. Je dénature pas leur raisonnement. Comme si tout ce qu'il y avait eu avant en tant que nationalisation, ça avait fait du bien aux travailleurs. Alors je ne vais pas faire l'histoire de toute la gauche dans les différents gouvernements qui a nationalisé parfois à tour de bras. Si on pense à Mitterrand, les premières années de Mitterrand, toutes les entreprises qui étaient endettées et qui supprimaient un peu des emplois avaient été nationalisées. Nationalisées dans leur tête, dans leur raisonnement, ça veut dire on paye cash aux actionnaires. On ne réquisitionne pas, parce que ça serait une autre paire de manches. C'est pas on vous prend l'usine et vous n'avez plus rien. C'est on vous prend l'usine, mais on vous dédommage. On vous paye. On vous rembourse. On vous donne des indemnités pour ça. Et quand on regarde Renault, pour l'entreprise la plus connue d'entre elles, mais toutes les charbonnages de France, la sidérurgie qui a été nationalisée à l'époque, ça s'est fini en massacre généralisé du côté des travailleurs. C'est que les gouvernements de gauche ont massacré l'emploi, ont fermé les mines, ont fermé la sidérurgie, et avec cette fameuse phrase de Laurent Fabius qui disait « on a fait le sale boulot ». C'est nous qui avons fait le sale boulot. Voilà à quoi ont servi les nationalisations. Et les nationalisations de cette manière-là, ça ne peut pas donner autre chose. Parce que ce qu'il faut avoir conscience, et ça c'est très compliqué à défendre autour de nous, je l'admets, c'est que l'État, il n'est pas du côté des travailleurs. L'État, il est du côté des capitalistes. Il est du côté, il travaille, il gît, il milite. Il organise la société en fonction des intérêts des milliardaires, des intérêts de cette grande bourgeoisie. Et à partir du moment où on demande à l'État d'intervenir, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, les capitalistes ne seront pas lésés. Et s'il faut licencier, bien ça sera l'État qui licenciera. Qui fera le sale boulot comme Fabius l'a dit. Alors nous, quels objectifs de lutte on propose, on ne défendra jamais l'idée que l'État des patrons, l'État des capitalistes doit intervenir pour défendre les travailleurs. Parce que qu'on fait rentrer le loup dans la bergerie, si on peut parler comme ça. Non, nous, ce qu'on défend comme idée fondamentale, c'est les idées de la lutte de classe. C'est quoi les idées de la lutte de classe ? C'est que les travailleurs, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour défendre leur peau, pour défendre leurs intérêts, pour défendre leurs conditions de vie. Et face à des patrons qui se sont gavés, goinfrés, en argent public, qui a été donné par tous les gouvernements, de la gauche comme de la droite, avec ou sans le Parti communiste, avec ou sans Jean-Luc Mélenchon, eh bien il faut interdire, imposer l'interdiction des licenciements sous peine de réquisition, mais sans indemnité ni rachat, on leur prend leurs usines et un point c'est tout. Et on les fait tourner pour nous. Alors je précise bien que ce sont des objectifs de lutte. Parce qu'on ne conçoit la perspective, une perspective efficace, positive pour les travailleurs qu'à travers la lutte, qu'à travers la lutte collective. Mais il faut qu'on se pose la question, parce que jamais ces partis de gauche et les grandes confédérations syndicales, la CGT en premier, ne posent véritablement le problème, mais pourquoi les patrons licencient ? Les patrons licencient parce que, je vais peut-être choquer, mais c'est la vérité, parce qu'ils sont obligés de licencier. Michelin est obligé de fermer l'usine de Cholet. Les actionnaires de Stellantis sont obligés de supprimer des emplois. ArcelorMittal est obligé de supprimer 600 emplois. Pourquoi ? Pourquoi moi, qui suis à lutte ouvrière, j'affirme ça ? Parce que la société, l'économie, elle fonctionne sur des lois qui obligent les patrons à se faire une guerre à mort entre eux. C'est la loi du profit, c'est la loi de la concurrence, c'est la loi du marché. J'avais un patron qui s'appelait Carlos Tavares, peut-être que je l'ai, pour certains d'entre vous, vous avez entendu ce que je veux dire, mais il était assez médiatique, enfin, c'était son salaire qui était assez médiatique. Mais il était venu à l'usine de Poissy il y a quelques années, il nous avait expliqué que à partir du moment où le marché automobile ne grandit plus, pour continuer Lui, il appelait ça pérenniser l'appareil de production. En fait, pour continuer à faire du profit et à verser des dividendes à nos actionnaires, eh bien, il fallait aller manger dans la gamelle des autres. C'est la loi du profit. C'est la loi de cette économie. Aller manger dans la gamelle des autres, ça veut dire aller prendre des parts de marché, se bagarrer à mort, lutter à mort pour prendre des parts de marché à Renault, prendre des parts de marché à Toyota, à Volkswagen. Et tous les capitalistes de l'automobile ont exactement la même politique. Volkswagen chez la guerre à mort à Stellantis, à Toyota, etc. Pour s'accaparer des parts de marché. Et ça veut dire que pour mener cette guerre, les capitalistes, vu qu'ils ne veulent pas écorner les bénéfices et les dividendes des actionnaires, ils nous mènent, à nous les travailleurs, une guerre sociale à mort. Parce que pour être compétitif, il n'y a pas 36 solutions. C'est qu'il faut baisser les salaires, baisser la masse salariale, baisser les coûts de production, comme ils disent, parce que pourquoi les PDG ne s'attaquent pas aux actionnaires et aux dividendes? Ben parce que les entreprises dans lesquelles on travaille et dans lesquelles les PDG sont payés pour faire tourner ces usines-là, elles n'appartiennent pas aux travailleurs. Elles appartiennent aux actionnaires. Elles appartiennent à cette grande bourgeoisie, la famille Peugeot, Bernard Arnault, Bolloré et compagnie, je ne vais pas tous les citer. Et donc c'est leur propriété privée, c'est à eux. Et donc c'est leurs intérêts qui sont défendus par la hiérarchie et par ces grands PDG. Et ces grands PDG sont embauchés avec une feuille de route, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule, faire fructifier les dividendes, faire fructifier les bénéfices, et pour ça, il faut faire la guerre aux autres capitalistes, et pour faire la guerre aux autres capitalistes, eh bien, il faut faire la guerre à ses propres travailleurs. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça dont il faut avoir conscience, si on veut mettre en avant des objectifs de lutte qui seront efficaces pour défendre nos conditions de vie et pour défendre nos intérêts de travailleurs. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement vicieux dans l'idée de la souveraineté nationale et dans l'idée de la production française. C'est que, un peu comme l'expliquait Carlos Tavares quand il est venu à Poissy, c'était qu'il nous demandait qu'on l'aide dans cette bagarre, dans cette guerre à mort. Et je lui avais dit, mais à Renault-Flin, c'est une usine qui est à 15 km de Poissy, qui a arrêté de produire la Zoé. Je lui dis, mais donc, ça veut dire que si Renault-Flin ferme, ne produit plus de voitures, vous, Carlos Tavares, vous êtes content. Vous avez marqué des points, vous avez mis à terre, vous avez mis un genou à votre concurrent. Ben, nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord parce que là-bas, il y a nos frères. Là-bas, on a de la famille, on a nos copains, on a nos camarades, on a des travailleurs qui sont comme nous. Il m'avait répondu, vous raisonnez en tant que citoyen, il faut raisonner en tant que collaborateur. Parce qu'il fait passer, mais c'est très intéressant cette réponse, il fait passer l'idée que parce que je suis salarié, parce que nous serions salariés de Stellantis, c'est l'intérêt de Stellantis qui doit passer avant l'intérêt général. Et les patrons raisonnent comme ça. Et quand on parle de souveraineté nationale, on fait passer les politiciens qui nous parlent de cette idée-là, nous font passer cette idée qui est empoisonnée, qui empoisonne notre conscience, qui empoisonne nos cerveaux, qu'il faut faire corps avec nos propres patrons contre les patrons chinois, contre les patrons polonais, contre les patrons marocains, contre les patrons brésiliens, ou je ne sais quoi. Et il est là le danger. C'est qu'à partir du moment où on se retrouve coude à coude avec nos propres patrons, on est dans le mauvais camp, les camarades. On n'est pas dans le bon camp. Notre camp, c'est celui des travailleurs. Ce n'est pas celui de nos patrons. Ce n'est pas celui de nos capitalistes. Et si on perd cette boussole, eh bien, on perd le Nord. Ça veut dire qu'on défend n'importe quoi. Et on peut être amené à défendre l'idée, pour que nos patrons français gagnent cette guerre économique contre les patrons chinois, eh bien, il faut se faire harakiri nous-mêmes. Il faut accepter les licenciements, etc. Donc l'idée de cette souveraineté nationale, l'idée de cette production française, l'industrie française, elle est extrêmement vicieuse, elle est empoisonnée parce qu'elle nous amène à faire corps, à se mettre avec nos patrons, avec nos propres exploiteurs. Et si on prend cette voie-là, on n'y arrivera jamais. Ça sera un suicide collectif. C'est qu'on servira jamais nos intérêts, on servira toujours les intérêts de nos capitalistes. Et ça, c'est anti-ouvrier. Ça, c'est contre notre temps. Au contraire, l'idée qu'il faut défendre, c'est que les vrais ennemis, Ce sont les capitalistes en général, mais c'est d'abord nos propres capitalistes, ceux qui nous exploitent ici, en France, et qui utilisent la misère du monde, qui utilisent la pauvreté du monde pour tirer vers le bas nos salaires, pour détruire nos emplois, etc., etc. Et c'est cette idée-là qu'il faut défendre autour de nous, c'est que la société, en fin de compte, elle est divisée en deux classes sociales. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. Il y a d'un côté cette grande bourgeoisie, ces capitalistes qui mènent le monde à feu et à sang, qui nous envoient tous dans le mur, et puis il y a l'énorme majorité, l'écrasante majorité de la population, c'est tous ceux, nous on appelle ça la classe ouvrière. Mais en fin de compte, c'est quoi la classe ouvrière? C'est tous ceux qui n'ont que leur salaire, leur allocation ou leur pension de retraite pour vivre. C'est tous ceux qui n'exploitent personne d'autre. Eh bien, ça fait du monde. On est plusieurs milliards sur la planète à faire partie de la classe ouvrière. Et l'avenir, il appartient à cette classe ouvrière. C'est elle qui pourra tout changer. Alors, je vais finir très rapidement. Mais quand cette guerre économique qui se mène les capitalistes... J'ai pris l'exemple de l'automobile, mais c'est vrai dans tous les secteurs de l'économie. C'est vrai dans le secteur de l'aéronautique, c'est vrai dans le secteur de la grande distribution, c'est vrai dans tous les secteurs de l'économie. Les patrons se mènent une guerre à mort entre eux. Et tant qu'on n'aura pas changé les règles économiques, tant qu'on n'aura pas mis par terre, quand on n'aura pas détruit cette loi de la concurrence, cette loi du marché, cette loi du profit et des bénéfices, eh bien on n'aura de cesse que de se battre pour défendre nos conditions de vie. Ça veut dire mettre par terre le capitalisme et changer fondamentalement les règles économiques, les règles de la production pour que l'ensemble de la production puisse servir à satisfaire les besoins élémentaires de la population et non pas à satisfaire les intérêts d'une classe qui ne fait que parasiter cette société. J'entends les capitalistes et ces grandes bourgeoisies. Mais quand cette guerre économique ne suffit pas, eh bien, ça ne s'arrête pas comme ça. C'est qu'il passe à la guerre totale, à la guerre tout court. C'est ce qui se passe en Ukraine. Je vais juste faire un tout petit développement rapide sur la guerre en Ukraine. Je vais vous demander de faire 3 ans en arrière, quand, sous la pression de l'OTAN, sous la pression de l'impérialisme américain, Poutine a déclenché la guerre et a commencé à envahir l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on entendait dans les médias? On l'entendait, c'est le camp du mal contre le camp du bien. Le mal, c'était Poutine, un dictateur. C'est vrai que c'est un dictateur. Là-dessus, on est d'accord. Et puis, il y a le camp du bien. Le camp de la démocratie, à l'époque, c'était Biden, Macron et compagnie. Parce que ils ne disent jamais la vérité. C'est vrai. Ça, on en est tous conscients. Les médias, les politiciens ne disent jamais la vérité. Ils habillent ça. Les guerres, ils les habillent. C'est le camp du bien. C'est-à-dire, c'est le camp de la démocratie, le camp de la liberté, le camp de l'Occident. Contre tous les autres. Et là, je vous demande d'arriver aujourd'hui, quand Trump est arrivé au pouvoir et qu'il a un peu surpris tout le monde, il faut bien le dire, en allant serrer la main de Poutine, et puis en engueulant Zelensky dans son bureau ovale, là, les médias étaient un peu perdus. Les politiciens en Occident étaient un petit peu perdus. Comment ça se fait que le représentant du bien, il fait copain-copain avec le représentant du mal? C'est compliqué. Compliqué à expliquer ça à BFM. Eh bien, surtout que derrière, on a vu Trump se comporter comme un vrai mafioso en disant « on va se partager l'Ukraine ». Et puis imposer à Zelensky bah, « je t'ai pris tes terres agricoles, maintenant je vais prendre les terres rares, c'est-à-dire les minerais, le titane, etc. Pour mon business, quand il dit mon business, pour les capitalistes américains. » Parce que cette guerre, comme toutes les guerres, c'était pas le camp du bien contre le camp du mal, ça c'est du baratin. C'était des motifs économiques. C'était l'impérialiste américain qui voulait mettre la main sur l'Ukraine et sur bien d'autres pays, tout en déstabilisant l'économie européenne, l'économie allemande. Et je vais juste, excusez-moi, je suis un peu long, mais je tiens quand même à l'expliquer. Quand la guerre a démarré, l'impérialisme américain, l'État américain, Biden a dit, on fait un cordon sanitaire, un blocus autour de la Russie. Alors là, les capitalistes allemands, c'était compliqué pour eux. Parce qu'ils ils achetaient le gaz et le pétrole russe, qui n'étaient pas chers, pour faire tourner leur économie, faire tourner leur business, faire tourner leur profit. Et les Américains, l'État américain leur imposait d'arrêter d'acheter le gaz russe qui était pas cher, mais leur imposait d'acheter leur gaz, le gaz américain, le gaz de schiste américain qui était plus cher. C'est comme ça. Parce que les Américains, mais comme les Européens, alors les Européens, c'est compliqué de parler, les Européens, mais les capitalistes allemands, les capitalistes français, ont chacun, mènent chacun leur, leur guerre, mènent chacun leur politique pour défendre les, leur, leurs intérêts. Et que dans cette guerre entre l'impérialisme américain contre la Russie, il y avait une deuxième guerre qui était en jeu, c'était l'impérialisme américain qui voulait déstabiliser l'économie européenne, déstabiliser l'économie allemande et marquer des points contre les capitalistes français, allemands, pour, au plus grand profit de leurs propres intérêts. C'est ça qu'il faut voir. Donc quand on nous bassine sur le fait, vous savez, il y a cette fameuse phrase d'Anatole France, on croit mourir pour la patrie, mais en fait, on meurt pour les industriels et les banquiers. Eh bien, aujourd'hui, les travailleurs russes et les travailleurs ukrainiens en ont fait une expérience sanglante. Ils sont retrouvés à je ne sais pas combien de centaines de milliers de morts dans les tranchées à s'entretuer pour des intérêts économiques qui les dépassent et qui ne les concernent pas du tout. Et c'est ça qu'il faut voir aussi. Donc ce système capitaliste, il nous mène de crise en guerre, de guerre en crise, et ça ne finira jamais tant qu'on l'aura mis, tant qu'on l'aura pas mis par terre, tant qu'on l'aura pas détruit. Et pour ça, c'est seule la classe ouvrière qui en a la capacité. Alors tout en sachant que on en est encore loin de cette révolution pour laquelle on milite, mais en tout cas c'est cette perspective politique que l'on défend tous les jours de l'année dans les entreprises, dans les quartiers, auprès de nos familles, partout. Parce que c'est la seule perspective qui soit viable pour l'ensemble de l'humanité.